Merci de rester avec nous à l'écoute de RFI, il est 11h à Paris et 10h en temps universel. Le journal sur RFI, c'est tout de suite avec vous, Charlotte Hydrac. Charlotte, bonjour.
Bonjour à toutes et à tous. Demain, Caroline Paris. À la une, la riposte de Bruxelles après les nouvelles taxes américaines sur l'acier et l'aluminium. Nouvelle étape de la guerre commerciale lancée par Donald Trump. L'Union européenne annonce des contre-mesures à partir du 1er avril. La peur des Alaouites dans l'ouest de la Syrie après les massacres de ces derniers jours. Des habitants se sont réfugiés dans une base aérienne russe. La commission d'enquête se dit déterminé à garantir la justice. À suivre aussi l'ancien président des Philippines, Rodrigo Duterte, en cours de transfert en ce moment vers La Haye, vers la CPI, qui le soupçonne de crimes contre l'humanité. Et puis, du Grand Paris hier soir, victoire au bout du suspense, au tir au but du Paris Saint-Germain face à Liverpool, qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Ce sont des taxes sans exception et sans exemption, a prévenu Washington. Ces nouveaux droits de douane de 25% sur l'acier et l'aluminium entrés en vigueur ces dernières heures. Objectif affiché, protéger l'industrie sidérurgique américaine. Et cela va peser lourdement, notamment sur la Chine, le Canada ou encore l'Union européenne, l'UE qui a annoncé dans la foulée des mesures de riposte. Et cela va s'appliquer en deux temps, Pierre Benazet.
Le 1er avril, l'Union européenne remettra en fonction les contre-mesures décidées lors de la précédente guerre commerciale avec Donald Trump. Elles avaient été suspendues depuis, et il y a là les droits de douane qui portent spécifiquement sur l'acier et l'aluminium, mais aussi sur des produits symboliques comme les motos Harley-Davidson ou le Bourbon. Dans un deuxième temps, l'UE appliquera une deuxième volée de contre-mesures qui amènera la réponse européenne à hauteur de 26 millions d'euros de droits de douane sur les importations américaines. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne.
Tariffs are taxes. Les droits de douane sont des taxes. Ils sont mauvais pour les entreprises et pires pour les consommateurs. Ils perturbent les chaînes d'approvisionnement. Ils sont source d'incertitude pour l'économie. Des emplois sont en jeu. Les prix augmentent. Personne n'a besoin de cela, ni dans l'Union européenne, ni aux États-Unis. Dans un monde marqué par des incertitudes économiques et géopolitiques, il n'est pas dans notre intérêt commun de faire peser de tels droits de douane sur nos économies. Nous sommes prêts à entamer un dialogue constructif.
Le commissaire européen au commerce qui sera chargé de cette négociation s'est déjà rendu à Washington en février. Cela n'a pas empêché Donald Trump de déclencher une guerre commerciale. Beaucoup doutent ici de la capacité de l'Union à le faire revenir en arrière. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI.
Réaction aussi de la Chine qui affirme qu'elle prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger ses intérêts. Le gouvernement britannique, lui, se dit déçu mais ne prévoit pas de contre-mesures immédiates et indique se concentrer sur la négociation. Les négociations pour un cessez-le-feu en Ukraine et la proposition américaine d'une trêve immédiate de 30 jours. Kiev a dit d'accord après une rencontre à Jeddah en Arabie Saoudite. La balle est maintenant dans le camp de Poutine, dit ce matin le chancelier allemand Olaf Scholz. Et à l'instant, le Kremlin à Moscou dit attendre d'être informé par les États-Unis sur cette proposition de trêve. Alors que sur le terrain, une frappe russe a fait 4 morts dans le port d'Odessa. 4 ressortissants syriens qui étaient en train de charger un bateau, précision des autorités ukrainiennes. Après la collision en mer du Nord, lundi, on apprend que le capitaine du cargo qui a percuté un pétrolier affrété par l'armée américaine est de nationalité russe. Cet homme de 59 ans est toujours en garde à vue au Royaume-Uni. Il est soupçonné d'homicide involontaire par négligence grave, et cela après la mort d'un membre de son équipage. En Syrie, la commission d'enquête sur les violences dans l'Ouest se dit déterminée à garantir la justice, à prévenir des représailles après les massacres de ces derniers jours, la mort de plus de 1200 civils, en grande majorité des Alaouites, la communauté de l'ex-dirigeant Bachar el-Assad. Par peur, certains habitants se sont réfugiés dans une base aérienne russe sur la côte ouest du pays. Théo Renaudon a pu contacter l'un d'entre eux.
Des femmes, des enfants et des hommes assis sur du gazon, entourés de tentes blanches et de motos. Ces Alaouites, contactés par RFI, nous envoient des photos de leur campement de fortune à l'entrée de la base russe. L'un d'entre eux nous raconte.
Nous nous sommes réfugiés ici parce que c'était le seul endroit sûr près de notre village, qui était attaqué par des terroristes armés qui tuaient tout, brûlaient tout, nos animaux de compagnie, nos oiseaux, nos poulets. Ils nous tuaient, nous, ils tuaient tout le monde.
Malgré une aide aide précaire des militaires russes. Les vivres commencent à manquer. Pourtant, pas question de quitter la base pour le moment.
Je ne me sens pas en sécurité. Il y a des gens qui attendent pour nous tuer simplement parce que nous sommes alaouites, simplement parce que nous appartenons à cette minorité. Je ne peux pas sortir tant que je sens ça. Si je sors, je suis mort.
Coincés dans la base, impossible pour eux de rejoindre le Liban voisin, comme des milliers d'autres alaouites réfugiés depuis vendredi.
La fin d'un ultimatum lancé par les rebelles houthis du Yémen à Israël. Ils annoncent la reprise des attaques de bateaux qu'ils estiment liées à l'État hébreu, notamment en mer Rouge et dans le golfe d'Aden. Et cela en raison du blocage de l'aide humanitaire par Israël dans la bande de Gaza. Cela continue, cela fait 10 jours. Parallèlement, des négociations indirectes se poursuivent à Doha entre Israël et le Hamas sur la poursuite du cessez-le-feu très fragile dans le territoire palestinien. Rodrigo Duterte en voie de transfert vers La Haye et donc vers la CPI à bord d'un jet privé. L'ancien président des Philippines a décollé tout à l'heure vers Rotterdam après une escale à Dubaï. Sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, il doit être jugé pour crimes contre l'humanité. Des organisations de défense des droits de l'homme estiment que des dizaines de milliers d'hommes ont été tués sous sa présidence et sous couvert de lutte contre le trafic de drogue. Sa défense, elle, s'active pour demander son retour à Manille, où l'on retrouve Nemo Lecoq-James.
L'avion de Rodrigo Duterte s'est envolé sous les yeux dépités de ses partisans.
Duterte ! Duterte !
Il a décollé à 23h03 heure de Manille et il a fait une escale à Dubaï après quelques heures de vol. L'ancien président est accompagné d'un ancien secrétaire exécutif, d'une infirmière et d'un assistant personnel. Son avocat, lui, a déclaré ne pas avoir été autorisé à s'approcher de l'avion. Dès son arrivée à La Haye, aux Pays-Bas, Rodrigo Duterte sera placé en détention puis assistera à une audience de comparution initiale. Hier soir, dès son départ des Philippines, le président Ferdinand Marcos Jr., qui est devenu un rival de la famille Duterte, a réagi. Selon lui, tout cela n'a rien de politique.
Nous sommes membres de la communauté des nations. On doit être à la hauteur de nos responsabilités et c'est ce qui se passe actuellement. La politique ne rentre même pas en compte.
Pourtant, l'arrestation de Duterte a déjà fait débat dans le pays et à l'international. La Chine a réagi hier soir. Duterte est un ami du président Xi Jinping. La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que la Cour pénale internationale devrait faire preuve de prudence dans l'exercice de ses fonctions et ne pas suivre de deux poids, deux mesures. Nemo Lecoq-James, Manille, RFI.
Super-héros pour le quotidien sportif L'Équipe. Paris est magique, du grand Paris, du pur bonheur. Quelques commentaires côté français après la victoire du PSG hier. Qualification du Paris Saint-Germain en quart de finale de la Ligue des Champions à l'issue de son bras de fer avec Liverpool. Une victoire en retour sur le terrain anglais, 1-0. Puis 4 buts à 1 au tir au but, au bout du suspense. Donc Cédric De Oliveira.
Épuisé mais soulagé, tendu puis tout simplement heureux, Nasser El Khelaifi est passé par toutes les émotions à Liverpool. Le président du PSG qui a conscience d'avoir vécu un moment particulier pour son club.
Soirée parfaite pour nous, les joueurs, les coachs, le staff, tout le monde, les supporters. On a mérité cette qualif. Pas facile mais j'ai le sentiment avant le match, j'ai dit c'est notre soir.
Il fallait un grand PSG pour s'imposer à Anfield. Il y a eu ce but rapide d'Ousmane Dembélé pour effacer la défaite de l'aller. Et puis cette séance de tirs au but survolée par Gianluigi Donnarumma qui a sorti 2 tentatives des Reds. Fautif la semaine dernière au Parc des Princes, le gardien italien s'est rattrapé et son capitaine Marquinhos s'en réjouit.
On est très heureux pour lui. Avant les tirs au but, j'ai dit ce match il est fait pour toi. Il a montré ce qu'il est capable, c'est un grand. C'est un mec qu'on veut vraiment qu'il soit décisif comme ça parce que ça nous fait vraiment de bien.
En éliminant le Liverpool de Mo Salah, encore impuissant, le PSG a montré à toute l'Europe qu'il était un candidat sérieux à la victoire finale. Mais pour Ousmane Dembélé, il y a encore du chemin.
Il n'y a que des favoris quand on voit le FC Barcelone. Jouer, le Real Madrid qui est encore dans la compétition, l'Inter, il n'y a que des grosses équipes et t'arrives en quart de finale, c'est que la bagarre qui est là.
La prochaine bagarre en quart de finale aura lieu dans un mois après la trêve internationale. Le temps pour le PSG de se remettre de ses émotions. Cédric D'Oliveira, Liverpool, RFI.
Et en quart de finale, le PSG affrontera soit les Anglais d'Aston Villa, soit les Belges de Bruges qui s'affrontent ce mercredi. À suivre aussi, entre autres, ce soir, Lille-Dortmund en 8e de finale. Ce sera à partir de 17h45, temps universel. Pour l'heure, 8 milliards de voisins. On vous retrouve, Emmanuel Bastide.